Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Début des congés d'hiver pour les académies de la zone A, Bordeaux, Clermont, Lyon, Dijon, Poitiers, évasion au soleil interdite, descente à ski impossible. Nous verrons ce qu'ont prévu de faire les Français. La campagne de vaccination dans les EHPAD est pratiquement bouclée. 70% des résidents ont accepté une première injection. Demain, le nouveau vaccin AstraZeneca sera normalement accessible à tous les soignants. Le football français revient tout entier à Canal+, jusqu'à la fin de la saison. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. C'est une bonne affaire pour Canal, beaucoup moins pour les clubs. Invité d'Europe Midi, Leïla Slimani, dont le nouveau livre « Le parfum des fleurs, la nuit chez Stock » est une magnifique introspection après une nuit passée dans un musée de Venise.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Question compliquée, sans réponse encore dans de nombreuses familles privées de leurs habitudes. En Savoie, la direction des routes attend environ 90 000 véhicules ce week-end sur le chemin des stations de ski, c'est-à-dire pas grand-chose, très très loin des migrations vers la neige du monde d'avant. Carole Ferry, il y a quand même des réservations de train ou de séjour pour ces vacances de février?
Alors soyons clairs Patrick, ce sera une triste semaine côté vacances, beaucoup de monde à la maison. À la SNCF, il y a moitié moins de réservations ce week-end qu'à la même période l'an dernier. Pour ceux qui partent quand même, ils vont majoritairement en Normandie, en Bretagne, mais aussi tout de même dans les Alpes, malgré la fermeture des remontées mécaniques. Toutefois, dans les résidences de tourisme, vous avez très peu de réservations, 20% des capacités à peine. Dans les meublés, les gîtes de France notent une hausse des réservations de dernière minute ces jours-ci, mais avec un chiffre global très en dessous de la norme. À noter, un regain d'intérêt pour la moyenne montagne, les Vosges, le Jura. On recherche le grand air plutôt que les grands sommets enneigés. Et puis bien sûr, c'est une catastrophe pour tous ceux qui organisent des voyages au soleil, selon Jean-Pierre Masse, président des entreprises du voyage.
En 2020, on avait un chiffre d'affaires qui avait chuté de 80%, ce qui est quand même colossal. Et pour l'instant, là, depuis les annonces de Jean Castex de vendredi dernier, il chute de 95%, c'est-à-dire il ne reste pas grand-chose. Il ne faut pas dire que c'est pour des raisons sanitaires que l'on empêche les Français de partir à l'étranger. Les tests PCR sont valables pour un Français qui rentre d'un voyage en Europe et tout d'un coup, ils ne sont plus valables pour un Français qui rentre d'un voyage hors Europe. Il faut dire que c'est pour protéger le tourisme français. Ça, je peux l'entendre.
Alors, pour le moment, les chiffres restent très médiocres, également pour le départ des Parisiens la semaine prochaine. Avec les menaces de reconfinement, personne ne réserve. Les professionnels du tourisme espèrent que tout se jouera à la dernière minute.
Merci Carole Ferry. Et pour ceux qui ne partent pas en vacances, le gouvernement pousse à nouveau au télétravail sans pouvoir l'imposer. Impossible de le rendre obligatoire. Jean Castex annonçait ce matin que l'État va montrer l'exemple en donnant les moyens aux fonctionnaires de travailler à distance.
Tirer les leçons de la crise, c'est aussi accélérer le déploiement des outils permettant le travail à distance, le fameux télétravail. Pour ça, il faut que l'État employeur s'en donne les moyens et d'ici à la fin de l'année 2021, tous les agents dont le métier est télétravaillable auront un poste de travail portable. C'est une décision forte également prise ce matin. Plus que jamais, notre boussole doit être l'amélioration concrète, perceptible de notre action par nos concitoyens au plus près des territoires.
Jean Castex ce matin à Mont-de-Marsan, propos recueillis par Jean-Rémy Baudot. La campagne de vaccination va terminer cette semaine sa première tournée des EHPAD. C'était la priorité de la stratégie vaccinale. Tous les résidents se sont vus proposer une première injection avec une acceptation, un taux d'acceptation finalement assez élevé, Anne Le Gall.
Oui, c'est un taux d'adhésion de 70%, qualifié de remarquable hier par Jean Castex. D'ici la fin de la semaine, tous les résidents volontaires des EHPAD auront reçu leur première injection, a indiqué le Premier ministre. Avec un bémol cependant, m'a expliqué ce matin la déléguée générale du CINERPA qui représente les EHPAD privés, c'est que dans la pratique, comme certains résidents ont été touchés par le Covid depuis moins de 3 mois, jusqu'à 10 ou 15% dans certains établissements, ils doivent attendre quelques semaines avant de recevoir leur première injection. Concernant maintenant l'adhésion des personnes âgées hors EHPAD, là aussi la demande est forte. Les populations prioritaires restent à ce stade les plus de 75 ans, les personnes atteintes de pathologies graves et le personnel soignant. Et pour répondre à leur demande, 1 700 000 rendez-vous supplémentaires doivent ouvrir dans les jours qui viennent, dont 500 000 à partir d'aujourd'hui.
Et le troisième vaccin qui vient d'être approuvé cette semaine, celui d'AstraZeneca, arrive demain en France, Anne.
Oui, les premières doses de ce vaccin réservé aux moins de 65 ans doivent être livrées effectivement dans les heures qui viennent. Elles seront affectées dans un premier temps aux établissements de santé pour protéger les soignants. Puis, d'ici la fin du mois, la campagne vaccinale va s'élargir aux médecins généralistes et aux pharmaciens. Et avec les stocks des trois vaccins actuels, le gouvernement assure que 4 millions de Français pourront avoir reçu leur première injection dans 3 semaines.
Au Portugal, un début d'accalmie, légère baisse des contaminations, mais le nombre de malades et de décès demeure à des niveaux records. Le Portugal, pays au monde le plus durement touché en janvier, après avoir laissé tout ouvert à Noël et laissé entrer les touristes de toute l'Europe. Envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne, Roman Oquet s'est rendu dans le service de réanimation du plus grand hôpital de la ville, Santa Maria.
Le chaos pour Sergio, médecin, c'est de ne plus pouvoir rentrer chez lui depuis une semaine, assigné derrière ses immenses portes blanches. C'est la zone Covid, avec une centaine de lits, tous occupés. Moyenne d'âge, 60 ans, des patients nettement plus jeunes qu'en France. Le prix à payer, explique Sergio, après le relâchement des vacances de Noël, où restaurants et théâtres sont restés ouverts.
Pendant la première vague, le Portugal a été épargné par rapport au reste de l'Europe, ce qui a rendu les gens trop confiants. Beaucoup de mes patients m'ont dit qu'ils avaient probablement attrapé le virus à Noël. Pendant des dîners, entre amis, en famille, sans masque. Ils ne m'ont pas dit qu'ils regrettaient, mais je l'ai vu dans leurs yeux.
Difficile pour Katharina, médecin, de parler du tri des patients, trop nombreux pour le peu de respirateurs et de lits. Un système hospitalier vétuste, foudroyé par l'épidémie.
La crise ne fait que révéler des failles qui ont été négligées pendant des années. Et ça, nos politiciens ne le réalisent que maintenant. Nous manquons de personnel et de matériel, c'est le problème.
Katharina s'accroche. Depuis 24 heures, les contaminations diminuent. Encore 2 semaines difficiles, dit-elle. En attendant, le pays appelle l'Europe à l'aide. 26 soignants allemands viennent d'arriver en renfort au Portugal.
Manoka, envoyé spécial d'Europe 1 à Lisbonne. À l'étranger encore, Moscou, Alexei Navalny, de retour au tribunal, l'opposant russe est jugé une deuxième fois cette semaine pour diffamation après sa condamnation à près de 3 ans d'emprisonnement. Réaction ce matin de la plus russophile des leaders politiques, Marine Le Pen, trouve compliqué de demander la libération de Navalny, mais elle souhaite que Moscou soit, je cite, attentive aux droits de la défense du militant.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Une pause avant la suite, le football qui revient à Canal+, et le roman à succès dont personne ne voulait.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Pour les droits du foot, Canal+, tient sa revanche. 3 ans après avoir été écarté par la surenchère de Media Pro, la chaîne à péage récupère l'intégralité des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est le grand gagnant de ce bras de fer avec la Ligue. La chaîne cryptée récupère la totalité des droits de la Ligue 1 pour les 4 prochains mois et s'offre aussi la Ligue 2, le tout pour un prix divisé par 2. Maxime Sada se savait en position de force. Avec une dose de bluff, le patron de Canal a finalement fait plier Vincent Labrune en lui offrant 200 millions d'euros dans les prochains jours afin de soulager la trésorerie des clubs et mettre fin au mirage Media Pro. Canal était agacé qu'une chaîne concurrente puisse continuer à diffuser gratuitement les matchs de Ligue 1. À court terme, c'est donc une belle opération. Dans les couloirs de Canal, on se félicite, les journalistes sont prêts. Maxime Sada a annoncé qu'une nouvelle chaîne devrait être créée car il y a embouteillage. Avec le rugby et les sports mécaniques, la grille des programmes est déjà pleine. Bein Sport devrait diffuser les matchs de Ligue 2.
Très bonne affaire pour Canal, donc nettement moins pour les clubs qui tablaient sur le fameux milliard de médias pro, Cyril.
Oui, les clubs sont soulagés, ils évitent la faillite, mais le foot français va souffrir. La Ligue 2, par exemple, qui devait toucher 135 millions d'euros, se retrouve avec un chèque de seulement 80 millions d'euros. Christian Leca, président de l'AC Ajaccio, est l'un des 5 membres du comité de pilotage, peut souffler.
On est toujours en vie, on est gravement blessé, mais on est toujours en vie. On va se soigner, parce que cette solution, c'est la moins pire qu'on ait pu trouver. Et je dois remercier toutes les équipes de la LFP pour s'être battues comme des chiens, pour en arriver à cette extrémité qui nous est, je dirais pas favorable, mais salvatrice.
Les clubs vont se mettre à la diète, les joueurs vont devoir baisser leur salaire. Et ce n'est pas tout, avant même ce dénouement, Bordeaux et Caen ont déjà entamé des plans sociaux.
Cyril de la Morinerie, merci. Une belle histoire d'édition pour finir avant d'accueillir Leïla Slimani. C'est aussi une histoire de fratrie, un frère et une sœur qui ont écrit un roman, Les carnets rouges, on va dire le titre maintenant puisque il est diffusé, et largement roman dont personne ne voulait au départ, Nicolas Caro.
C'est vrai que c'est une belle histoire. Il était une fois Carole et Antoine, et quand ils étaient ados, ils s'amusaient à écrire des petites histoires, dont une avec une fin vraiment géniale. Alors ils l'ont laissé dormir dans un tiroir, ils l'ont laissé tomber, mais 10 ans plus tard, ils se décident à terminer Les carnets rouges. Refus des éditeurs, pas grave, ils le publient sur des plateformes d'auto-édition. Alors là, succès immédiat, 15 000 lecteurs, et parmi eux, Clément Giraudet, homme d'affaires et mari de l'actrice américaine Robin Wright. La suite, c'est Antoine Fruchard qui la raconte.
J'appelle ma sœur Carole en lui disant « Écoute, tu ne vas pas me croire, mais l'actrice d'House of Cards et Forrest Gump adore l'histoire et l'imagine comme une série. » Donc on est à la fois stupéfait, incrédule et en même temps extrêmement enthousiaste parce qu'on a toujours visualisé notre livre comme un film ou en tout cas comme une saison. On a du mal à y croire, hein, c'est un peu la réalité qui dépasse la fiction. Et on se dit « bah on a bien réussi à écrire un livre, à l'auto-publier et on va tout faire pour que ce projet puisse avancer. »
Vous pensez bien qu'avec un tel potentiel, cette fois l'édition classique s'est bousculée pour le publier et c'est HarperCollins qui a décroché le contrat pour ce premier roman, et il devrait y en avoir deux autres, c'est censé être une trilogie.
Très bien, merci Nicolas Caro. Le temps, Anissa l'a dit, les vacances commencent, la pluie revient, c'est comme
et
ça.
Et voilà, c'est exactement ça, Patrick. Nous avons une perturbation qui va stagner sur certaines régions cet après-midi, de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, en passant par la Charente, le Centre ou encore la Bourgogne, et bien sûr toutes ces régions cet après-midi. Il pleut, nous avons 11 départements placés en vigilance orange crue, 7 à l'ouest, 3 départements dans les Hauts-de-France et toujours la Saône-et-Loire en vigilance orange. Dans le sud, les nuages et la pluie vont arriver dans les Cévennes cet après-midi avec le vent marin qui se renforce jusqu'à 90 km/h. Dans le nord-ouest, en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France et sur les Hauts-de-France, et bien là, les éclaircies seront belles. C'est là que la journée sera la plus agréable finalement, c'est dans le nord-ouest. Les températures, 10 degrés à Dijon, 12 pour Paris et Colmar, 13 à Nantes, 15 pour Saint-Étienne, 16 à Nice et Lyon, 18 à Marseille, 19 à Ajaccio. Des températures encore très douces, ça va nettement baisser ce week-end, avec là aussi le retour des pluies très fortes dans le sud-ouest. Hein.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Leïla Slimani a passé une nuit dans un musée de Venise, elle y a trouvé une odeur qui lui a ouvert beaucoup de portes, le parfum des fleurs la nuit chez Stock, c'est son dernier livre, elle nous en parle tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Votre nouveau livre, Le parfum des fleurs la nuit, est une commande, celle de l'éditrice Alina Gurdiel, qui poursuit son idée d'enfermer des écrivains une nuit entière dans un musée. Vous vous laissez convaincre, mais la Venise touristique et l'art contemporain exposé à la pointe de la douane où vous passez la nuit ne vous parlent pas beaucoup. Et pourtant, vous en avez fait un livre magnifique où vous vous livrez comme jamais. Ce n'est plus ma nuit au musée, c'est ma nuit avec moi-même, avec vos peurs et vos joies, peur du dehors, bonheur d'écrire et d'être enfermé pour écrire, souvenir d'enfance à jamais disparu et soudain ravivé par le parfum d'une plante, le galant de nuit. Il vous revient comment ce parfum ?
Ce parfum, c'est celui d'un arbre, donc galant de nuit, mesquite arabe, qui est une plante tout à fait connue en Méditerranée.
C'est une sorte de jasmin. Hein.
Voilà, une sorte de jasmin qui était planté tout près de la porte d'entrée de ma maison à Rabat et qui était donc l'odeur qui m'accompagnait quand je sortais le soir lorsque j'étais adolescente. Donc évidemment, dès que j'ai senti cette odeur, c'était très proustien. Tout de suite, j'ai été transportée dans mon adolescence et sont arrivés les souvenirs du Maroc, de mes parents, de mon père. Voilà.
C'est là que tout vous revient, l'enfance. Et la question de l'enfermement, parce que vous avez été élevé, écrivez-vous, comme un animal d'intérieur.
Oui, j'ai été élevée comme un animal d'intérieur, de par le fait que j'étais une fille, par le fait que j'appartenais aussi à un milieu assez bourgeois, où on valorisait aussi le fait de rester à la maison, d'étudier, de lire. J'habitais très loin du centre-ville, il fallait vraiment beaucoup de temps pour arriver chez moi, donc une fois qu'on rentrait, ben, on ne ressortait plus. Et puis une fille, ce n'était pas fait pour traîner dans la rue, ce n'était pas fait pour flâner. Une fille, ça va d'un endroit à un autre, et puis ça rentre à la maison, parce que c'est plus en sécurité à la maison.
Oui, c'était surtout la conception de votre mère qui vous surprotégeait.
Absolument.
Et qui vous a transmis ses peurs.
Voilà, qui m'a transmis ses peurs, qui m'a transmis aussi le fait que je ne suis pas très débrouillarde. Comme je le dis dans le livre, je ne sais pas conduire, je ne sais pas faire de vélo, je n'ai jamais pratiqué de sport de ma vie. Je suis vraiment quelqu'un qui est fait pour être assis sur un canapé avec un livre ou regarder un film. C'est ce dans quoi je suis le plus qualifiée, à mon avis.
Ce parfum qui vous poursuit à Venise, ce galant de nuit, c'est l'odeur de mes mensonges, de mes amours d'adolescente, des cigarettes fumées en cachette, des fêtes interdites. Ce que vous reproduisez en partie d'ailleurs lors de cette nuit au musée en allant fumer en cachette dans les toilettes, Leïla Slimani.
Oui, alors ça c'est mon grand problème, c'est la cigarette. Et j'associe en plus beaucoup la cigarette à l'enfermement, à l'écriture. Dès que je suis dans un truc, un moment d'introspection, j'ai besoin de fumer. Et j'ai eu beaucoup de mal à me retenir. Et j'ai fini par mettre ma tête dans la cuvette des toilettes et fumer en cachette dans le musée.
Bon, ce parfum évidemment et ces souvenirs, ça va bien au-delà. Vous dites avoir la mélancolie des sensations de votre enfance, dont vous avez d'ailleurs perdu toute trace, hein, photos et souvenirs égarés.
Oui, il n'y a plus rien. Quand mon père est mort dans la maison dans laquelle j'ai grandi, et 2 mois après sa mort, ma mère a déménagé, toutes les affaires ont disparu. Ce que j'explique dans le livre, c'est que ça a pu être un chagrin sur le moment, mais ça a été ensuite un très grand sentiment de soulagement. Et je crois qu'être capable de se délester d'un certain nombre de choses, en particulier de choses matérielles, finalement, c'est très, très libérateur. Donc je ne suis pas tellement attachée aux objets.
Ah.
Sauf les petites choses kitsch, enfin les choses bébêtes, des petits trucs qu'on garde comme ça, qu'on retrouve dans une poche.
Oui.
Mais si ça disparaît, je me dis ça disparaît. Et puis voilà, j'essaye de le retrouver. Puis si je le retrouve pas, j'en fais pas toute
une
histoire.
Ah oui, vous avez essayé. Il y a quand même un peu de regret sous votre plume.
Ouais,
parce qu'on voit
bien
que vous auriez bien aimé remettre la main sur certains de ces souvenirs.
J'aurais aimé remettre
la
main sur ce que j'avais écrit et sur les photos, sur mes poèmes d'adolescente et stupidité, mais j'aurais aimé.
Et puis vous l'avez cité, il y a la figure de votre père, banquier condamné injustement comme tant d'autres notables au Maroc. Il a fait de la prison, il est mort l'année d'après sa libération. Pourquoi écrivez-vous que le destin de votre père a toujours pesé sur le vôtre ?
Pour moi, c'est une évidence parce que avec mon père, j'ai appris ce que c'était que l'échec, que la rumeur publique, que l'injustice. J'ai appris ce que c'était aussi la douleur de non seulement de l'injustice sociale, mais d'être traîné dans la boue et d'être l'objet de l'opprobre. Donc évidemment, ça a pesé sur moi socialement parce que j'étais la fille d'Othman Slimani, mais parce qu'ensuite j'ai eu une très grande révolte, une grande colère et peut-être l'envie aussi de le venger et de lui offrir ce que la vie n'avait pas pu lui offrir, que la réussite qui lui avait été arrachée, eh bien j'avais besoin, moi, de la conquérir.
Il m'a interdit, écrivez-vous, toute paresse, toute tiédeur.
Ah oui, à partir du moment où il a disparu dans ces circonstances dramatiques, il fallait que j'ai du panache. Il fallait, parce que finalement, son destin, dans son aspect tragique, avait du panache. Mais je pense que mon père aurait voulu être écrivain. Mon père aurait voulu être un intellectuel. Il aurait voulu. Enfin, il a regretté de s'être approché trop près du pouvoir, de la politique. Et comme un moustique attiré par la lumière, il a été brûlé, finalement, sur l'ampoule sur laquelle il s'est collé. Donc, moi, j'ai essayé de lui offrir autre chose.
C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, vous décrivez, vous souvenez de ces piles de livres entassés et qui lisait toujours au même endroit et qui était souvent enfermé dans sa maison à lire. Et puis vous vous souvenez aussi, vous avez l'image de lui emprisonné, enfermé également. Par mes histoires, écrivez-vous, j'essaie de regagner sa liberté, j'écris et je creuse un trou dans le mur d'une cellule, j'écris et chaque nuit je lime les barreaux d'une prison. Leïla Slimani.
Oui, mon père est un homme qui a toujours été enfermé dans son intériorité parce que c'était un homme silencieux, un homme mystérieux, enfermé derrière ce mur de livres. Et puis, j'y ai pensé l'autre jour, en fait, c'est un homme qui a vécu confiné pendant 10 ans, puisque mon père a perdu son travail lorsque j'avais 13 ans et il a été incarcéré exactement 10 ans plus tard sans avoir jamais pu retravailler. Et il ne sortait pas parce qu'il avait honte. Il ne voulait pas croiser des gens dans la rue, il ne voulait pas qu'on le voie, il ne voulait pas voir le regard soit de pitié, soit de la acheter de jugement des autres, donc il ne sortait jamais. Et c'est vrai que cette image de mon père, c'est celle de l'immobilité, et en même temps, à travers la lecture, à travers les livres, que d'ailleurs il a réussi à transmettre ce goût aux gens avec qui il a été détenu. Quand il est sorti de prison, la première chose qu'il a dit, j'ai donné mes livres, j'ai partagé des histoires, je leur ai raconté des choses, et je pense qu'en pouvant leur raconter des choses, il leur a permis aussi des évasions momentanées. Et quand vous lisez, quand vous avez une vie intérieure, vous ne pouvez jamais être totalement enfermé. Il y a toujours une part de vous qui peut échapper. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de le cultiver.
Vous livrez un récit très, très profond. Je parlais tout à l'heure d'introspection. Vous ne l'aviez pas prémédité avant de vous enfermer dans ce musée à Venise. C'est venu comme ça ? C'est-à-dire que cette nuit a été une sorte de révélation ?
Ah oui, c'est venu comme ça, ça s'est imposé. Et puis, une fois que je me suis mise à écrire, parce que j'avais un carnet avec moi, j'avais un carnet de notes, et très rapidement, je suis allée vers ce terrain de l'introspection. Ça m'a gênée au début, et je me suis dit, je déteste l'impudeur, moi, j'ai jamais fait d'autofiction, j'aime l'imagination, je suis vraiment romancière, c'est ça mon ADN. Donc, je me suis dit, mais en quoi ça peut intéresser les gens que je leur parle de moi ? Et finalement, je me suis dit, le seul intérêt que ça peut avoir, c'est de raconter ce que c'est d'être écrivain. Et pourquoi, au fond, tout ce qui s'est passé dans notre vie nous ramène à ça, parce que l'écriture, ça n'est pas un métier, c'est une manière de vivre. C'est une passion dévorante qui vous occupe du moment où vous vous réveillez au moment où vous vous couchez.
Et pour vous, c'est une façon d'être heureuse.
Absolument.
Ce sont les derniers mots de votre livre.
Tout à fait.
J'aurais survécu sans être écrivain, mais je ne suis pas sûre que j'aurais été heureuse.
Oui, c'est un grand bonheur pour moi l'écriture parce que la joie de créer, c'est quelque chose d'extraordinaire et que je vis, je ne suis jamais seule en fait, je vis avec des personnages qui m'accompagnent, que j'aime profondément, que je comprends et qui me comprennent.
Tiens, à propos de personnages, il y a aussi la figure de Marilyn Monroe dans votre livre. Pourquoi elle ? Leïla Slimani, c'est une figure féminine qui vous fascine et qui vous éloigne à la fois d'elle.
Marilyn Monroe, elle me touche immensément. Moi, je suis tombée amoureuse d'elle, j'avais 7-8 ans, je regarde les premiers films. D'abord, c'est la femme occidentale pour moi. C'est-à-dire, c'est vraiment la femme que je pourrais jamais être. Elle est blonde, on voit la moitié de ses seins, elle danse, elle est hyper maquillée, des bijoux partout. Donc, elle représente une femme que j'ai jamais rencontrée en vrai. Et puis, tout de suite, je perçois cette mélancolie chez elle. Il y a une phrase d'Arthur Miller qui, moi, me déchire le cœur. Il dit, Marilyn, c'est un petit poète qui essayait de déclamer ses poèmes dans la rue pendant que la foule lui arrache ses vêtements. Et c'est vraiment ça pour moi, Marilyn Monroe. C'est une femme qu'on a enfermé dans son corps, qui est toujours lié à cette image de la prostituée, de la femme facile. Et donc, il y a cette mélancolie en elle qui, moi, me tord le cœur. Donc, c'est presque une amie pour moi. J'ai envie de la protéger. J'aime beaucoup Marilyn Monroe.
Elle est victime, oui, de son apparence et,
ouais,
et de son attrait, et de l'attrait qu'elle exerce sur les hommes. Vous êtes pétrie de contradictions, comme tout le monde, mais vous ne les cachez pas, vous les écrivez et vous dites même que vous pouvez changer d'avis sur telle chose ou telle autre. Voilà, comme sur votre identité ou vos identités, vous êtes souvent exprimé là-dessus, mais vous redites dans ce livre, on se revendique toujours étranger et on déteste en même temps que l'autre vous voit comme tel, on est de mauvaise foi. On est toujours,
oui,
de mauvaise foi.
Je pense
quand
que les gens de double culture sont souvent de mauvaise foi. C'est-à-dire que, c'est ce que je raconte dans le livre, si je suis par exemple en France et que quelqu'un commence à me dire « Ah, les Marocains, ce sont des misogynes, c'est très patriarcal, j'aime pas la façon dont ils se comportent avec les femmes », je vais avoir tendance à dire « Mais tu généralises, c'est n'importe quoi » et je vais me mettre en colère. Et si je suis au Maroc et qu'un Marocain me dit « Ah, nous sommes des gens vraiment très respectueux des femmes », je vais lui dire « Tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai du tout ». Donc je suis toujours un petit peu, voilà, j'ai toujours envie de défendre l'autre part de moi. J'ai envie à la fois d'être reconnue dans une forme d'étrangeté exotique quand je suis dans un lieu. En même temps, j'ai envie d'être reconnue comme un des leurs. Donc, je suis toujours de mauvaise foi, jamais à la bonne place.
Bon, et quand on ne vous parle pas de vos identités, ça vous va très bien aussi ?
Ça me va très très bien aussi. Quand on me parle d'être écrivain, c'est ce qui me va le mieux.
Et quand on parle de littérature et de langue française, dont vous dites à quel point elle est précieuse, c'est un joyau.
Ah oui, c'est une langue extraordinaire. Moi, bien sûr, on a beaucoup parlé de la langue française dans son rapport à la colonisation, le fait qu'elle a été imposée. Mais en fait, c'est pas si vrai que ça. D'abord parce que la langue française, elle a été très très peu enseignée aux gens qui ont été colonisés. Donc ce fantasme de penser que les gens ont appris le français parce qu'ils ont été colonisés, c'est pas tellement vrai, parce qu'on n'a jamais enseigné très très peu enseigné le français. En fait, le français a souvent été enseigné après, au moment des indépendances, par les nationalistes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes États indépendants qui embrassent cette langue avec cette idée de on a réussi à battre les Français avec leur langue, avec leurs valeurs. Et moi j'aime bien cette idée de je vous prends ce butin et je l'utilise contre vous presque. Et pour moi cette langue, c'est une langue qui est plastique, c'est une langue qui se créolise, qui vit avec les autres langues. Moi j'adore les expressions là qu'on entend aujourd'hui, les jeunes qui disent « je t'ai mis le seum ». C'est quoi le seum ? Seum en arabe, c'est le poison. C'est une langue qui s'imprègne de toutes les autres langues. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, je défends vraiment la promotion du français, tout comme je pense qu'en France, on devrait apprendre plein de langues, dont l'arabe d'ailleurs, qui est une langue absolument magnifique.
Vous
et qui n'est pas la langue des islamistes. Voilà.
Et il faut enseigner l'arabe.
Absolument.
Il faut l'apprendre. Merci beaucoup Laïla Slimani, Le parfum des fleurs la nuit. Donc dans cette collection Une nuit au musée, vous avez eu d'illustres prédécesseurs, on en a reçu ici beaucoup, Kamel Daoud entre autres, c'est chez Stock, merci à vous.
Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci d'avoir suivi Europe Midi, le 13h de Marguerite Lefebvre dans un instant, puis La France bouge. Bonne journée et bon week-end.